C'est un sujet qui a été projeté déjà il y a 2 ans à peu près, et l'ensemble du programme devait être beaucoup plus ample sur l'expérience existentielle dans la tradition juive. Comment finalement, étant donné la période de l'année qui a été choisie pour ce séminaire, pratiquement l'immense majorité des participants, enfin des conférenciers, n'ont pas pu se rendre disponibles. Alors je suppose que ça sera repris dans un autre séminaire au courant de l'année, de façon beaucoup plus ample. Nous avions pensé primitivement étudier un certain nombre de termes dans le Tanakh, dans le Talmud et dans la Chassidut. Et puis finalement, on s'est borné à 4 sujets que je vais vous expliquer brièvement pour que vous voyez un peu l'organisation du programme. Et donc, le matin, on aura une série de cours de Midrash sur la manière dont la tradition du Midrash, que ce soit le Midrash lui-même, que la Gadol du Talmud, ont traité du thème de l'amour d'après le Shirachidim. Puisque je suppose que c'est l'expérience existentielle privilégiée. Et d'autre part, il y aura ce soir une conférence de Joël sur le thème de l'angoisse et de la lucidité dans le Tania. Je suppose que pour toutes ces conférences du soir dont je vais vous parler, on récapitulera la discussion entre les enseignants et le public dimanche prochain à l'occasion du séminaire. Donc il y aura d'abord un enseignement ce soir sur l'expérience existentielle caractéristique de la racine du racine normal. Demain soir, je ferai un texte du Rav Nachman de Breslav sur la solitude. Mercredi soir, il n'y a rien. Jeudi soir, ce sera M. Roski qui fera un texte sur un enseignement sur la philosophie de l'existence, sur le thème de la solitude, chez Eschel. Ensuite, dimanche, nous aurons une étude sur Kohelet en après-midi à 3h30, et le reste de la séance de l'après-midi sera consacré à un échange de vues sur l'ensemble des thèmes qui ont été vus. C'est-à-dire, le principe qui a été pris, c'est que tous les conférenciers assistent à l'enseignement des autres, de telle sorte que la discussion, le cas échéant, la discussion, on ne va pas discuter de ces choses-là, mais la confrontation des idées, comme ça a été dit, soit codée, recodée, enfin je veux dire, elle soit dans le vague, comme ça risque d'être habituellement dans tout ce genre de symposium. Alors bien entendu, si vous avez des questions à poser à ce moment-là, vous pouvez aussi tenir compte de ce qui aura été appris, étudié dans les manuels. Alors écoutez, je ne vais pas du tout vous faire d'introduction systématique des différents problèmes d'exégèse, d'histoire religieuse qui se sont posés à propos de chez Rachidim. Je pensais que la chose la plus efficace, ce serait de prendre comme guide le commentaire de Rachid. Bien entendu, ce que nous étudierons, ce n'est pas forcément le commentaire de Rachid, ce sont les sources, c'est-à-dire les Midrashim. Mais d'étudier la petite préface qu'il a lui-même donnée à son commentaire, pour lui rendre compte du thème qu'il a choisi, de la ligne de force des choix des sources qu'il a choisi dans son commentaire. Et donc de profiter de l'introduction de Rachid pour voir, le cas échéant, les problèmes d'introduction qui seraient nécessaires. On peut faire quelques phrases pour me réhabituer au langage, mais je pense que ça va venir tout de suite. Alors je propose donc d'emblée d'aborder le premier texte que vous avez là, à la page 2. C'est ce petit texte sans voyelles, mais enfin nous allons le lire ensemble. Alors, je ne sais pas quel est, en général, à priori, je vais le retenir de connaissance. Il doit être très disparate. Je vais donc faire comme d'habitude, de parler comme si vous savez tout et rien. On s'arrangera au moment de l'étude. Alors, n'hésitez pas à poser les questions d'éclaircissement, si c'est nécessaire. Les questions de discussion, vous les laissez pour la fin du cours. C'est-à-dire, on a prévu de travailler jusqu'à midi et demi, donc jusqu'à peu près midi et quart, si vous voulez, nous allons faire les élèves. Encore une fois, si vous avez des questions ou de quelque chose de pas clair, vous pouvez les poser tout de suite pendant l'étude, mais les questions générales de méthode, d'objection, à la fin, les discussions à la fin. Alors, Alors, nous commençons, comme d'habitude, simultanément en hébreu et en français. J'espère ce matin pouvoir terminer l'introduction de Rashi, l'étude longue de Midrashi sur le premier verset, et d'aborder le deuxième verset aussi. On vous a donné en plus, pour ce matin, en plus de Torah Tmima, qui est l'anthologie de Midrashi, une page du commentaire du Gaon de Vilna sur le deuxième verset, dont nous aurons besoin à la fin de ce premier verset. L'introduction, quelle est la ligne de force que Rashi a choisi dans son commentaire. Parmi l'ensemble des Midrashi, ce qui nous donnera la possibilité de définir l'objectif du Midrash dans l'étude de ce texte-là. Et il s'agit bien évidemment du terme de l'amour. Il y a tout un problème de savoir si on doit considérer le Shir HaShirim comme un livre d'amour dans le sens le plus strict, le plus élémentaire du terme, le berger et la bergère, le roi Salomon et la Shulamite. Lui et elle, ce sera l'expression de l'emploi le plus souvent, le fiancé et la fiancée, et que ce texte tel quel qui aurait été donné par le roi Salomon ou par l'auteur qui l'attribuerait au roi Salomon, je mets tout ça au conditionnel entre guillemets, vous savez que je ne focus pas du tout dans ces études des postulats de la question du livre qui sont complètement extérieurs à l'enseignement traditionnel. Enfin, pour nous, bien évidemment, il est évident que si les rabbins n'étaient pas des petits garçons qui jouaient au billes, les rabbins qui ont décidé le calendrier savaient de quoi ils traitaient, savaient de quoi ils s'occupaient. S'ils nous ont donné ce texte comme étant du roi Salomon, c'est que traditionnellement, il s'agit d'un texte du roi Salomon. Et ne perdons pas de temps, si vous voulez, avec les problèmes universitaires. Il faut bien que chacun gagne sa vie à l'université, on a des problèmes comme ça pour avoir une chaire. Mais je referme la parenthèse. La question qui s'est posée dans la discussion académique à ce sujet, c'est si l'on doit considérer que ce texte est d'emblée donné dans l'intention d'être, ou alors on laisse ouvert quand on est sur l'instant. Dans l'intention d'être un chant d'amour, un dialogue d'amour.
Laissez ouvert,
s'il vous plaît. Alors, on va être fatigué. Un dialogue d'amour qui, sur lequel on aurait projeté un sens symbolique, mystique, ou bien si c'est l'inverse, si c'est un texte d'emblée prophétique, de l'inspiration prophétique, qui se formule au niveau d'un dialogue de relation d'amour. Nous aurons à rencontrer ce problème à travers l'exégèse de chaque détail. La thèse générale que je vais prendre comme postulat est que c'est la même chose. À partir du moment où l'on prend au sérieux ce que la tradition a voulu enseigner en disant que la relation entre le créateur et la créature est une relation, bien entendu, de création, donc une relation de personne à personne, il est bien évident que la limite de la relation de personne à personne dans l'intention du créé, du fait de créer une créature, c'est une relation d'amour. Et ça veut dire que l'amour lui-même, tel que nous le connaissons dans l'expérience existentielle, a d'emblée comme tel un sens religieux, et que la relation religieuse de personne à personne par excellence est d'emblée une relation d'amour. C'est-à-dire que finalement, nous pouvons passer beaucoup de temps à cette analyse dialectique de savoir s'il s'agit d'un texte d'amour sur lequel est projeté un sens mystique ou d'un texte mystique qui, par vocation, se formule comme un texte d'amour, mais je pense que ce serait une étude inutile parce que la réponse qui nous est donnée par la tradition, c'est qu'en réalité, c'est la même chose. C'est-à-dire, si on prend au sérieux le fait de création, que vraiment quelqu'un a voulu créer autre, c'est donc qu'il l'aime. Et que la réaction de créateur à créature, c'est la relation d'amour par excellence. Que les deux choses sont vraies. Que c'est dans notre monde à nous que ces deux niveaux sont distingués, distinguables, mais qu'en réalité, du point de vue de l'expression de la parole prophétique, c'est la même chose. Et nous aurons un texte de Rabbi Akiva comme texte d'appui tout à l'heure à ce propos. Cette relation d'amour, elle doit donc être entendue entre le créateur, Dieu, et toute la créature, tout l'univers, donc toute l'humanité. Mais nous savons d'autre part, par tout l'enseignement de la Bible, que cette alliance d'amour entre le Créateur et la créature Et, petite parenthèse, elle sera entendue dans la relation filiale de père à fils, le créateur et le père, la créature et le fils, mais à la limite, cette relation est la relation conjugale entre guillemets, dans le sens que M. Neher, dans ses études, a donné à cette expression pour parler de l'alliance d'amour. Et elle est donc universelle d'emblée. Et puis, nous apprenons par l'enseignement de la Bible que cette alliance du Créateur à la créature, qui est donc strictement l'intention de faire être celui qui est l'autrui de l'amour, s'est particularisée dans l'histoire d'Israël. Que c'est, en fin de compte, à travers la société d'Israël que l'élection d'amour a été réalisée dans l'histoire, au titre de l'universel, dans les deux sens. De l'humanité entière surgit Israël comme partenaire privilégié de cette alliance du Créateur à la créature. Il a des raisons pour ça. Ce n'est pas du tout un postulat, ce n'est pas du tout un article de foi dans le sens du dictionnaire de ce terme de foi, je crois, sans qu'il y ait des raisons de croire. Il y a des raisons pour cela. Cela nous est expliqué abondamment dans tout le récit historique, depuis l'origine de la Genèse jusqu'à la fin du texte de la Bible. Que c'est à titre de l'universel que cette relation se particularise particulièrement en Israël, et dans les deux sens, et une fois particularisée, elle concerne l'universel, mais c'est finalement par rapport à la société d'Israël que se concrétise ce lien qui se traduit par l'alliance d'amour. Et c'est le thème général qui sera choisi en général, d'une façon générale, par les Midrashim. Midrashim a mis en évidence une dimension particulière. C'est une dimension particulière de la relation d'amour lorsqu'il n'y a pas présence mais absence de ceux qui s'aiment. C'est-à-dire, c'est le champ d'amour entre Dieu et Israël, Israël et Dieu, lorsqu'il y a situation d'exil. Voilà donc quelle est, si vous voulez, l'introduction nécessaire à l'introduction de Rachid. À travers le thème général de la relation d'amour, c'est une expérience particulière qui va nous être commentée, l'amour lorsque l'autre n'est pas présent, ou si vous voulez, lorsque l'autre est caché. Effectivement, si vous avez déjà lu les chapitres du Shir HaShirim, vous avez dû avoir cette première lecture, c'est que lorsque lui est là, elle n'est pas là, lorsque elle est là, il n'est pas là. Au niveau de l'histoire qui réalise, incarne cette relation de l'alliance d'amour, il s'agit de la situation d'exil. Alors nous allons d'emblée lire la manière dont Rashi nous introduira ce problème. Cite d'abord un verset pour expliquer la pluralité, la richesse plurale des perspectives du Midrash. C'est-à-dire, à partir d'un thème donné global, la méthode du Midrash consiste à approfondir chaque digne de détail de chaque verset pour lui-même. Et la méthode du Midrash, c'est de montrer que les implications d'une formule du verset, ce qu'enferme la formule d'un verset, sont multiples. Et nous allons tout de suite avoir cette consigne de méthode. Alors, Rashi cite un verset du psaume, qui est au début le psaume 62, verset 12, qui a été cité par les maîtres du Midrash pour exprimer cette méthode. Achat Diver Elohim, c'est tout au début du texte. Achat Diver Elohim, Shtaim Du Shamati. Alors, voilà le verset. C'est donc psaume 62, verset 12. Voilà ce que dit ce verset. C'est une chose que Dieu a parlé, Achat Diver Elohim, et ça veut dire pour un problème de méthode, dans toute parole que Dieu parle, Shtaimzu Shamarti, j'ai entendu deux choses à la fois. D'abord, le thème le plus classique d'utilisation de ce verset, vous comprenez le sens général. Dans toute formule de l'expression du discours prophétique, de la parole de Dieu à travers la parole prophétique, eh bien, il y a des implications, il y a des harmoniques. Chaque dire, chaque mot veut dire à 10 niveaux différents de lecture ou d'entendement, veut dire, nous renvoie à des thèmes de compréhension parallèles, convergents, simultanés, impliqués tout à la fois. Et l'objectif du Midrash, c'est de mettre en évidence, par des analyses particulières, chacune de ces implications, mais toujours dans une convergence totale, enfermée dans la formule du verset à la lettre. Ce qui va nous être confirmé par la manière dont Rashi très rapidement nous rappelle ce principe. Le thème le plus classique nous renvoie à la révélation du Sinaï. Vous savez que traditionnellement, il est enseigné que les dix paroles des dix commandements, les Aseret HaDibourot, les dix paroles sont dites simultanément par le même mot. Dès le premier mot des dix commandements, Anochi on est censé entendre tout ce qu'il y aura dans le développement de ces 10 paroles. C'est rattaché à un thème très précis qui est connu de ceux qui sont un peu familiers à ces midrashim, Shamor Vezachor Vedibur Echa Nehemo. C'est-à-dire, vous savez que dans les deux textes, les 10 commandements que nous avons, l'un dans le livre de Shemot, dans la paracha de Yitro, l'autre dans le livre de Devarim, dans la paracha de Vaetranan, il y a des différences. Le texte des premiers 10 commandements est celui qui est donné à la génération de la sortie d'Égypte, à la génération des pères, la première année de la sortie d'Égypte. Le deuxième texte, c'est le même texte, mais tel qu'il est donné à la génération des fils 40 ans après, lorsqu'ils vont entrer dans le Vietnam. Vous vous rappelez de ce rythme du temps de 3 générations. La génération de ceux qui sont sortis d'Égypte reçoit la révélation au désert. Il se passe 40 ans de la génération du désert. La révélation est récapitulée de nouveau, Mishneh Torah, pour la génération des fils qui entrent en Eretz Israël. C'est un terme pour lui-même. Mais en particulier, si ce problème vous intéresse, étudiez-le surtout avec le commentaire de lui, Ibn Ezra. Ibn Ezra qui indique, je crois que je l'avais cité une fois, peut-être pas cette année, enfin peut-être pas ici, qui donne une indication extrêmement importante. Il dit, les mots peuvent changer, mais vous remarquerez que les ta'amim, les accents de la modulation de la parole, sont exactement les mêmes dans les deux commandements. Ce qui mène Ibn Ezra à dire que la parole de la parole, c'est la mélodie de la parole. Et que celle-là, que c'est la prophétie, c'est surtout cela, les ta'amim. Et que cela n'est pas changé entre les deux textes. Quoi qu'il en soit, les mots sont différents dans différents points. Dans différents points, chacun de ces points de différence est une étude pour elle-même. En particulier pour le commandement du Shabbat, il est introduit une fois par l'expression Shamor, préserver, garder, qui fait allusion à l'ensemble des commandements négatifs du Shabbat, l'autre fois par l'expression Zachor, qui fait allusion à l'ensemble des commandements positifs du Shabbat. Donc c'est un sujet pour lui-même, ça ne m'a trop loin de l'aborder pour lui-même. Et le Midrash, vous savez, on chante ça dans le Lechadodi, Shamor, Vezachor, Vedibur, Echad. Mais ça se rattache à un thème plus général que lui. Ça nous apprend, dit le Midrash, que toutes les paroles des 10 commandements ont été dites en un seul mot, lequel? Le mot Anochi. C'est-à-dire, toute la Torah, c'est le développement du mot Anochi. Je vais me baser sur un autre enseignement du Gaon de Vilna pour essayer de l'analyser. C'est le Gaon de Vilna nous dit tout ce qu'il y a dans la tradition orale est enfermé dans la tradition écrite, sous forme d'implication. Toute la Torah Shebalpé est dans la Torah Shebirtav, qui est le Mikra, le texte à lire du Tanakh. Tout le Tanakh est enfermé dans les 5 livres de la Torah, sous forme d'implication. Toutes les 5 livres de la Torah sont dans le livre de Bréchit, tout le livre de Bréchit est dans la paracha de Bréchit, toute la paracha de Bréchit dans le premier verset de Bréchit, lequel est tout entier dans le premier mot, lequel est tout entier dans la première lettre. Et si on a compris la première lettre de la Torah, alors on comprend tout le développement de la parole de la Torah. Quelle est la première lettre de la Torah? Bet. C'est-à-dire, notre problème, c'est de comprendre ce mot de Bet. Le terme qu'enseigne ici le Gaon est très important, bien que très très simple. Tout l'objet de la sagesse que veut nous transmettre le discours de la prophétie, c'est de nous faire comprendre les relations entre le Créateur et la créature. Avant la création, il n'y avait qu'un être. Celui qui dit « moi », « Anochi », ça commence par Aleph. Mais l'histoire du monde commence par Bet, c'est la relation entre le Créateur et la créature. Tout le problème de la sagesse que la Torah a à transmettre, c'est ce problème de la relation d'autrui à autrui. Toute la Torah, c'est la Torah, c'est la Chochma de la lettre Bet. Vous pourrez développer, vous entendez la méthode du Midrash. Et la lettre Bet, c'est la lettre Bet. C'est-à-dire qu'il y a une maison à construire, et il faut construire cette maison, et ça commence par le commencement. Il y en avait un, il y en aura deux, qui va habiter l'autre. C'est tout le problème du sens de la destinée de l'homme, qui a conscience de lui-même comme créature. Le créateur, c'est le un, mais dès qu'il y a créature, alors il y en a deux, c'est cela le problème de la Torah. Et toute la parole de la Torah, c'est le développement de ce qu'il faut savoir pour construire cette maison depuis le commencement. C'est clair. Et de la même manière, au niveau des 10 commandements. Le seul qui est le droit de dire « moi », c'est le Créateur, c'est Dieu, qui se révèle pour donner sa loi avec comme objectif que la créature devienne aussi un « moi ». C'est-à-dire toute la Torah, c'est la Torah de savoir comment devenir un « anochi ». Donc, tous les commandements sont impliqués dans le mot « anochi ». Est-ce que c'est clair? On va raconter une petite histoire chassidique en passant. Un candidat à la sagesse qui a entendu parler d'un tzaddik et qui finalement un soir arrive chez lui dans un petit village. C'était la nuit, il frappe à la porte, en bas, en haut, une fenêtre qui s'ouvre et le rabbin qui demande qui est-ce, et le candidat à la sagesse répond moi. La porte, la fenêtre se referme. Vous connaissez cette histoire, non? La fenêtre se referme. Et puis, vous frappez, mais c'est moi. Finalement, il s'en va. L'année d'après, il revient, il frappe à la porte, la fenêtre s'ouvre, qui est-ce? Moi. La fenêtre se referme. Finalement, il a compris. Alors, la troisième année, la fenêtre s'ouvre, qui est ton élève? Il dit, bon, vous avez compris le... Alors, il a dit, tu as compris ce que j'ai pu à t'expliquer, il y en a un seul qui a le droit de dire moi. Mais c'est ça l'objectif de la Torah. C'est d'arriver à avoir le droit de dire moi. La Torah, c'est la Torah de Anochi. Voilà le verset. Ve'ayu ha'devarim ha'ele asher Anochi metzavecha ha'yom. Et seront ces paroles que Anochi t'enseigne aujourd'hui. Ça veut dire que toute la Torah, c'est pour savoir comment être la créature du Créateur qui vit soit avec Anochi. Anochi Hashem Elokecha. C'est Anochi qui est Hashem ton Dieu et devenir soi-même un Anochi en ayant le droit de l'être, en ayant mérite. Vous avez étudié une fois les audios de Rabbi Akiva, peut-être ? C'est Rabbi Akiva enseigne à lire tout l'alphabet dans le sens de cette ligne de force. Alors, c'est le Baal HaBayit qui sort de la maison pour faire Gmilut Chassadim au Dal qui n'a rien par lui-même. Ça continue. Et vous l'étudiez dans l'audio de Rabbi Akiva. Et alors, effectivement, les neuf commandements qui suivent le premier sont le développement du commandement d'être un Anochi. Voilà comment on arrive à être un Anochi. Et il y a trois commandements de rapport entre l'homme et Dieu, trois commandements de rapport entre l'homme et lui-même, trois commandements de rapport qui régissent le rapport entre l'homme et autrui, et chacun de ces trois, c'est à trois niveaux, Mahashava, Dibur, Mahasé. Les neuf commandements qui déploient le premier sont eux-mêmes les principes généraux des 613 commandements qui les déploient tous. Vous voyez quel est le problème. Alors on a l'habitude de relier ce verset de Psaume Kassiterachi, Achat Diver Elohim, Shtaim Zum Shamat. Une chose Dieu a dit, j'en ai entendu deux simultanément. De la manière suivante, c'est que les 10 paroles des 10 commandements, les deux premières ont été entendues directement par le peuple. Anochi Hashem Elokecha Elohi Elecha Elohim Acherim. Elohim Acherim, il faut dire, puis c'est les Elohim Acherim. Et les 8 autres ont été entendues à travers l'intermédiaire de Moïse, la médiation de Moïse. Retenez ce premier midrash parce que nous aurons à l'utiliser dans l'étude du verset 2 tout à l'heure ou demain si on n'arrive pas aujourd'hui. Il faut dire que, non, il faut savoir d'abord cela. Achat Diber Elokim Shtaim Zu Shamat. Que la parole du discours biblique est tout entière pleine d'implications. Je continue, Rach. Nikra Echad, chaque verset, Yotse Rekama Ta'amim. Chaque verset, c'est un. Chaque formule du Mikra, chaque formule du texte, se déploie en autant de signification. Il y a une autre manière d'enseigner le même principe, que Patish Yefute Tsela. De la même manière que lorsque Patish, c'est un marteau, le marteau frappe un rocher, alors il fait éclater des étincelles qui vont dans tous les sens. Le dire de chaque verset est plein d'une signification qui explose en germe. Chaque étincelle est suivie par tel midrash particulier. Vous comprenez un peu le. Alors, Mikra Echad Yotse le Kamat Amin. Mais sauf d'abord, mais ajoute Rashi, en fin de compte, sauf d'abord, et ce sauf d'abord est à relier. Du point de vue de l'analogie des dominos de l'expression biblique, au sauf d'avoir à Konishma, que nous retrouverons avec l'Ecclésiaste, avec Kohelet. Mais en fin de compte, comme disait notre maître, en fin de compte, la sauf d'avoir, en mecha mikra yotse videpshu. Tu ne trouveras jamais un mikra, un verset, mais mikra ça veut dire une lecture d'un verset, c'est-à-dire un texte qui sort de son pshat, c'est-à-dire de la forme littérale exacte à la lettre. Je voudrais en profiter pour ouvrir une parenthèse sur ce deuxième principe que cite Rashi. Et donc Rashi cite deux principes. Chaque verset est plein de niveaux de sens, et c'est l'objectif du Midrash de les mettre en évidence, chacun pour lui-même, et nous en aurons des exemples, donc toute la semaine, chaque thème, une fois indiqué par un Baal HaMidrash, par un enseignant du Midrash, c'est l'analyse de la forme du verset dans sa littéralité même, poussée jusqu'au bout dans une dimension. Et toutes sont impliquées dans le même verset. Deuxième principe, aucun Midrash ne peut être décalé par rapport à la forme littérale du verset. J'en profite pour expliquer cela, pour ceux qui ont peut-être étudié d'une autre manière, qui à mon sens est erronée, ce que dit le Talmud à ce sujet. Le Talmud dit, avant notre la chasse, nous avons étudié, traversé les Shisha Sidre Mishnah, les six traités de la Mishnah, et nous n'avons jamais trouvé un verset qui sort de son pshat. Qu'est-ce que c'est que le pshat? Le pshat, c'est le sens littéral. C'est le sens de la traduction, mot par mot, à la lettre. J'aurai peut-être à revenir sur ce problème, mais très rapidement, pour cette première introduction. Ça veut dire, si nous avons un problème très important, sur lequel Rashi met l'accent, c'est ceci. C'est que, pour comprendre un verset, on ne peut pas prendre cette méthode artificielle, frelatée, de la mentalité occidentale, qui consiste à distinguer l'esprit de la lettre. De la même manière, s'il est qu'une âme, pour être dans un corps, a besoin que son corps soit complet, un organisme n'est là et n'est vivant que s'il est chalem, que s'il est complet dans tous les détails, il vient dans chaque cellule. De la même manière, l'esprit, la signification spirituelle, l'intention d'un dire, d'un verset, n'est exact que s'il coïncide, habillé de chaque lettre de la littéralité. Ce thème de la différence entre l'esprit et la lettre, c'est ce qui a empêché la lecture authentique de la Bible. C'est-à-dire qu'on peut comprendre l'idée d'un verset que si on la comprend formulée littéralement dans chaque détail de l'écriture. C'est-à-dire de la lecture. Vous comprenez, une dracha n'est exacte que si elle rend compte que si l'idée qui est transmise est coulée absolument dans tous les détails de la lettre. Sinon, c'est que c'est une autre idée, c'est un autre verset qui n'est pas écrit d'ailleurs. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Alors, c'est là la minutie de l'explication du Midrash. Le Midrash propose une dimension de lecture d'un verset, plus exactement, la lecture d'une des dimensions d'implication d'un verset. Mais tant que ce Midrash n'est pas formulé d'après la littéralité du texte, alors c'est faux. Alors c'est pas exact. Et si c'est pas exact, c'est faux. On ne peut pas donner une idée approximative à propos d'un verset. La science du Midrash est une science précise, qui consiste précisément à comprendre le verset à la lettre. Je pense que c'est bien clair, c'est pas la peine de perdre du temps là-dessus. Et la Bible est un livre qui se prend à la lettre. Et bien entendu, on ne peut se prendre à la lettre qu'en hébreu. Vous comprenez, je pense que cette distinction entre l'esprit et la lettre, qui est notablement d'origine chrétienne, vient du moment où on lit ce livre dans une autre langue, où il a été donné. Alors bien entendu, dans une traduction, on ne peut pas lire à la lettre. Alors on garde l'esprit, et puis finalement l'esprit, eh bien l'esprit n'est pas là. L'esprit est plus là. L'esprit n'est pas là, puis si la lettre n'est pas là. Je crois que la comparaison que j'ai donnée tout à l'heure est assez suggestive. De la même manière qu'une âme, pour devenir une personne, devenir une personne à travers un corps, eh bien, si ce n'est pas l'âme du corps, si ce n'est pas le corps de l'âme, c'est un fantôme, c'est pas une personne. Je pense que c'est ça. Je prends les deux principes de la chute. Premièrement, il y a mille drash pour un verset. Mais aucun drash n'est authentique s'il n'est pas dans le chat. C'est-à-dire, il y a mille, ça veut dire infini, directions de compréhension de la formule enveloppée par la forme du verset, mais chacune de ces drashot n'est authentique que si elle est dans le chat du verset, c'est-à-dire dans la traduction littérale. Je termine cette parenthèse. Donc voilà ce que dit la Gemara. Si vous voulez, je pourrais vous donner la référence de cet enseignement. Alors, nous, et qu'on la chasse, nous avons traversé tout le Talmud et nous n'avons jamais trouvé qu'un verset soit sorti de son pshat. C'est dit pour le drash. C'est-à-dire, c'est pas dit contre le drash, c'est dit pour le drash. Vous avez compris à quoi je fais allusion. Alors, bien entendu, il faut évidemment s'opposer au faux drash. C'est-à-dire, et on assiste actuellement, en France en particulier, à une espèce de floraison, explosion de lecture de la Bible. Vous avez remarqué cela. Bon, c'est un temps béni, puisque les Juifs s'occupent de leur livre, sauf c'est arrivé. Eh bien, mais ce sont des lectures approximatives, vous comprenez. C'est-à-dire, ce sont des drachotes, qui n'ont aucune base ni en haut ni en bas. Pourquoi ? Parce que c'est à peu près une idée qui ressemble à ce que dit le verset, et tant que ce n'est pas très exactement coulé dans cette science exacte qui, à travers 3000 ans, a été la science du Midrash, alors ce ne sont que de grandes idées, belles et généreuses, profondes et approfondies, mais approximatives. Et elle est le plus dangereux pour la vie spirituelle que l'approximative. Je pense que c'est clair. Alors, des fois, ça coïncide, ça...